Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Heureux de vous retrouver à nouveau cette semaine dans les cadres de notre magazine d'échanges citoyens. Parole aux auditeurs sur la fréquence de la paix. Mesdames et messieurs, une fois encore merci de votre fidélité. Plusieurs affrontements opposant différents groupes armés sont signalés ces derniers temps au nord et sud Kivu. Certaines sources affirment que le nombre de groupes armés ne fait qu'augmenter dans cette partie de la RDC. Elles parlent d'une centaine de groupes armés actifs contre une quarantaine il y a quelques temps. Cette affaire relance donc les débats sur les bilans des différents mécanismes de pacification de la zone de l'Est de la République démocratique du Congo, entre autres le Starek, Amani, programme DDR et autres initiés par l'État congolais. Comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 49 69 ou encore au 09 97 06 63 80 pour votre intervention en direct. Alain Ngoy est à la mise en onde, Nico Kalambay à la réalisation. Ce programme est supervisé par Martin Sebujangwe et coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de l'intérêt que vous accordez au sujet que nous vous soumettons au débat citoyen. Mpo Embo Francis pense qu'en politique, rien n'arrive au hasard. Pourquoi la tenue des élections de 2016 n'a pas été respectée? Le peuple congolais dans son ensemble doit-il se montrer naïf pour demander au groupe qui incendie leur maison de s'ériger en sapeur-pompier? Tout ce qui arrive a été planifié depuis des années et avec la complicité, collaboration et naïveté de certains compatriotes congolais au sein des structures dirigeant en place. Ces insécurités et instabilités profitent à ceux qui se disent démocrates, mais ont peur du débat démocratique. Clément Bouy, à Kananga, estime que tout ce qui se passe au nord et au sud qui vous sont des effets politiciens pour distraire le peuple. Il est important que les Congolais de s'unir en un seul homme pour mettre fin à cette distraction politique. Disons non aux aventures et réclamons les élections à la fin de cette année. Libouza se demande pourquoi c'est toujours à l'approche des élections que naissent dans ce pays des groupes armés sans but réel. Avant les élections de 2006, c'était le CNDP. Avant celle de 2011, c'était le M23. Les politiciens congolais doivent savoir qu'au-delà des conflits, le peuple a besoin de la paix. Nous n'avons plus besoin des millions de morts. Tant que l'État congolais continuera à fermer les yeux sur les crimes graves, chaque ethnie se fabriquera une milice. Augustin Mboyo de Mbandaka estime que le gouvernement n'a pas la volonté de mettre fin à ces crises qui persistent dans ces deux provinces. Pourquoi s'interroge-t-il lorsqu'on s'approche des élections? Il faut qu'il y ait l'explosion des groupes armés. Est-ce que ce ne sont pas là de manœuvres dilatoires organisées par le pouvoir en place pour pouvoir retarder les élections? Alain Bolodjoua pense que la question sécuritaire est transversale. Elle part de la motivation militant en faveur de ces phénomènes à la restauration de la paix en passant par les mesures des mitigations prises, on se rend compte que dans la plupart des cas, les initiateurs sont plus motivés par un esprit mercantiliste. Ils créent ces situations justement pour faciliter les explorations des matières premières. Quant aux mesures prises, d'ici là, apparaissent inefficaces et partant inadaptées. Une fois encore, merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Adrien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue. Adrien, vous êtes avec nous? Bonjour. Voilà, on prend plutôt Maître Gervais qui est à Kalemi. Maître Gervais, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Gir, bonjour à mes frères Sedin Koulou Barouani et Béa Sikumbili Fossin qui me suivent chez moi à travers le monde.
Ben alors, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, à ce niveau du débat, je dirais, bien plus, c'est fait que les jeunes gens de ces contrées-là, d'ici des Nord Kivu, ne sont pas bien encadrés. parce qu'il est dit quelque part même dans notre charte africaine de la jeunesse que dans son préambule il est dit que la jeunesse est le moteur du développement de l'Afrique. Aujourd'hui les jeunes sont instrumentalisés, des fois c'est par manque de bons emplois rémunérateurs, aussi par manque d'encadrement du point de vue social, économique. Et c'est à ce titre, je puis aussi m'appuyer sur l'article 14, toujours de la charte de la charte africaine de la jeunesse, qui parle de l'intégration socio-économique des jeunes. Et aussi, il faut créer, donc, par manque de création de boulot ou d'emploi, il y a des jeunes gens. Et si vous constatez bien, dans plusieurs rébellions qui sont de l'autre côté, ce ne sont que des jeunes qui sont là. Et la plupart des jeunes n'ont pas d'emploi, n'ont pas de boulot, vit par désespoir, aussi par certaines difficultés que connaissent ces jeunes gens, ils se plongent, soit ils s'enrôlent dans des différentes rébellions pour qu'ils puissent trouver leur mieux-être tout en maltraitant les jeunes gens. Aujourd'hui, cette série de tracasseries est toujours à la base.
Oui, mais maître Gervais, je crois que si on doit replacer les choses, vous êtes le premier auditeur à intervenir, vous l'avez dit, c'est vrai, la jeunesse inoccupée, c'est cette jeunesse qui se voue, qui s'adonne pratiquement, qui rejoigne donc facilement ces groupes armés. Mais la grande question aujourd'hui, quand nous relançons les débats sur les bilans de différents mécanismes de pacification de la zone proposée ou initiée par l'État congolais, entre autres le Starec, Amani, programme DDDR et tant d'autres, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, comme l'a dit Alain Bolodjoa dans son message, que cette question ou encore cette situation justement pour faciliter les exploitations, les mesures prises jusque là où les mécanismes mis en place apparaissent inefficaces et partant inadaptées.
Oui, donc...
ces mécanismes n'ont pas pu donner les résultats.
Évidemment, la raison évoquée par M. Alain Bolodjoa est aussi évidente et contrastée. Donc la grande question revient toujours actuellement au gouvernement congolais de pouvoir créer peut-être une autre structure qui pourra relever le défi de ces anciennes structures qui ont échoué, entre autres DDR. Mais DDR, il faut féliciter, mais ces différentes structures-là ont abattu un travail quand même intéressant qui n'a pas abouti à sa fin. Sur ça, il faut relever le défi tout en créant ou en initiant de jeunes, donc les jeunes gens, ou soit en créant, parce que le gouvernement aujourd'hui a tous les moyens de pouvoir mettre fin à cette série de crises qui connaît, donc qui se passe de l'autre côté. C'est que c'est une question de prise de conscience de jeunes au départ et aussi du gouvernement congolais.
Merci.
Pour pallier à cette situation.
Merci beaucoup. Vous estimez qu'effectivement il y a eu cet échec de différents mécanismes. Et vous avez en même temps reconnu qu'effectivement il y a des efforts qui sont menés ça et là ou qui ont marché parmi les mécanismes mis en place par le gouvernement. Notamment, vous avez évoqué les cas de DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion, qui a donné plus ou moins, selon vous, en tout cas, des résultats escomptés. Alors aujourd'hui, quelle serait réellement la cause exacte de cette prolifération, la prolifération de ces phénomènes? Je l'ai dit en début, on est passé d'une quarantaine de groupes armés 2009-2010, et voire même bien avant, mais aujourd'hui nous sommes à une centaine. Quelle serait à la base de cette prolifération? Élie Lokwa, vous êtes avec nous, Élie, vous êtes avec nous à Mbandaka. Bonjour Élie.
Oui, allô, bonjour, Radio Capi.
Vous avez la parole. Vous avez suivi Maître Gervais qui, au fait, demande ou plaide pour que un autre mécanisme soit mis en place de fait de l'échec des mécanismes précédents. C'est vrai qu'il y a quelques-uns qui ont marché, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas le résultat escompté. Est-ce que vous partagez cet avis?
Merci, Radio Capi. Je salue tous les auditeurs avec qui nous partageons des points de vue à la parole aux auditeurs. Je vais dire ceci à mon très cher journaliste. Le problème de la résolution des conflits, ou peut-être de la certains mécanismes pris par le gouvernement pour la pacification de certaines zones maintenant dégradées par les milices et les armées. Tous ces mécanismes, ce sont peut-être des véritables mécanismes pour le moment. Mais à mon humble avis, il faut savoir un peu distinguer les faits. où étions-nous avec tous ces conflits armés dans l'Est de la République? C'est parce que, notamment, il y avait des génocides dans le Rwanda, notamment, et que voilà, tous ces génocides, la population rwandaise qui a quitté son pays, elle est venue s'installer dans notre République démocratique du Congo. Et que toutes ces populations qui quittaient leur pays se sont transformées en militaires. Et donc, le gouvernement congolais qui a installé aujourd'hui ces mécanismes de la pacification, le gouvernement congolais devait d'abord délocaliser toutes les populations rwandaises qui sont maintenant dans notre pays. Mmh. Ça, c'est le point introductif de mon intervention. Mmh. Devait d'abord savoir si on peut mettre en place un autre dialogue, parce que si nous nous souvenons l'accord de Saint-City, on avait intégré toutes les forces armées rebelles de pouvoir prendre part au dialogue. Et même le dialogue de l'ANSECO, il fallait que le gouvernement ou les évêques de l'ANSECO puissent intégrer l'aspect de l'opposition politico-militaire. On devait intégrer toutes les forces armées militaires de rébellion dans cette contrée de notre pays. Il devait prendre part au dialogue, discuter avec le gouvernement, leur interroger pourquoi ils ne sont pas produits des désordres dans cette partie de la République. Et sur base de quoi que ces militaires, milices, ne cessent pas à torturer, à manipuler la population congolaise, à dégrader le facteur socio-économique de cette contrée de la République. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai même écrit à un certain moment dans un article, que toutes les forces militaires rebelles de cette contrée de la République ont été manipulées et commanditées par une main noire pour l'enrichissement illicite de cette partie de la République, pour exploiter les gisements, diamants, les cobalt de notre pays de manière irrationnelle.
En effet, Ali Bolodjo l'a dit dans son message également, lorsqu'il parle il pense que la question sécuritaire est transversale. Elle part de la motivation, selon lui, militant en faveur de ces phénomènes, à la restauration de la paix, en passant par des mesures, des mitigations prises. Et selon lui, on se rend compte que dans la plupart des cas, les initiateurs sont plus motivés par un esprit mercantiliste, selon son message. Merci beaucoup, Elie Lokwa. Adrien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, à Maître Gervais aussi.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui ces phénomènes seraient d'une partie dus à la culture importée, comme l'a dit Elie Lokwa?
Malheureusement, c'est la vérité, parce que vous allez vous rendre compte que ce phénomène de groupes armés a élu un domicile dans une partie bien définie de la République, qui est l'Est. Et vous allez voir qu'il y a non seulement la création, mais aussi le maintien, l'évolution, la scission, donc la prolifération des groupes armés. Alors, la vraie question qu'il faut se poser, c'est d'abord la cause. Parce que pour résoudre un problème, il faut savoir les motivations, la cause. Je remercie déjà Alain Bolodjo dans ce message que vous avez lu. Il a déjà été détaillé. Il y a d'une part les causes politiques, il y a de l'autre part de reconnaissance comme ce qui se passe par exemple au Tanganyika avec les groupes, les pygmées, des reconnaissances sociales. Il y a d'autre part aussi de l'enrichissement illicite et aussi de la manipulation. Mais alors, pourquoi la question qu'on se pose, pourquoi il existe ce maintien-là des groupes armés, la seule réponse qu'on peut donner c'est l'impunité. Alors, tenez les yeux. Lorsque un Congolais prend l'arme pour tuer un autre Congolais, moi, peu importe la motivation, moi je pense que ça c'est déjà porter atteinte à la personne humaine. Alors le fait de porter atteinte à la personne humaine, même pour des raisons de la paix, cette personne ne doit pas rester impunie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous appelons la récompense des groupes armés. Vous avez les bandits, vous avez un certain nombre de gens qui prennent les armes et qui tuent les autres membres de la population congolaise, même qui se disent qu'ils ont des revendications. Mais lorsque vous trouvez des revendications, les victimes qui ont été sacrifiées n'ont rien à faire dans leurs revendications, qui peuvent être de transversales. Alors, qu'est-ce que l'État devrait faire? Au lieu que l'État puisse sanctionner ces individus, mais l'État va récompenser ces individus, soit en intégrant ses membres dans les forces armées, ce qui est une faiblesse des forces armées, soit en reconnaissant ces individus le statut des politiciens et parfois même les amnistier. Voilà la difficulté qui pose. Donc aujourd'hui, moi, pour répondre à cette question, je veux dire que c'est l'impunité.
Merci beaucoup, Adria. 09 97 06 49 69 ou encore le 09 97 06 63 80 pour votre intervention en direct.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Après avoir écouté les uns les autres, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio pour cet échange citoyen, Justin Bitakwira qui est avec nous. Bonjour Monsieur Justin. Vous êtes ministre de développement rural et acteur politique. Monsieur le ministre, d'entrée de jeu, après avoir écouté les uns les autres, d'une quarantaine des groupes armés actifs, il y a peu, à une centaine aujourd'hui, qu'est-ce qui justifierait cette prolifération? Autrement dit, quelle serait la raison, la vraie raison de cette multiplicité des groupes armés?
Oui, je crois que j'ai suivi d'abord... que ce soit M. Jean-Claude, que ce soit M. Elie ou M. Adrien et les autres. Et je crois que effectivement c'est un phénomène. Un phénomène que s'il n'est pas éradiqué, notre pays a encore de longs chemins dans les ténèbres de sa propre histoire. C'est vraiment les ténèbres de l'histoire de notre pays. Et vous savez, c'est depuis 1996. A éclaté la guerre de la FDL qui est arrivée à Kinshasa le 17 mai 97 et qui a effectivement parcouru presque à pied tout l'est du pays jusqu'à arriver à Kinshasa, à l'équateur, et la FDL accède au pouvoir. Et j'ai suivi, c'est vrai, monsieur, je crois que c'est monsieur
Adrien
qui a dit que c'est pas de rien, plutôt monsieur Jean-Claude qui a parlé de la traversée de
Elie Lokwa de Mbandaka.
De Mbandaka, d'accord. Qui a une bonne partie des citoyens
qui a évoqué des cas de génocide
la gendarmerie rwandaise qui ont traversé dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs que vous trouverez que pour la plupart des cas la prolifération des groupes armés, c'est dans à peu près à 70-80% dans l'est du pays. Et je dois vous dire que ça fait partie d'une certaine culture.
Donc on peut dire, sans être contredit, que ça fait partie d'une culture maintenant.
Ça fait partie d'une culture. Et à part ce qui s'était passé à l'Équateur il y a plus d'une dizaine d'années
les
émigrés. Mais aujourd'hui, maintenant, on parle de BDK. Boudoudia Mayala, Kamuna Sampou dans le Kasaï. Effectivement, pour les BDK ou pour le Kamuna Sampou, on comparerait cela à une forme de terrorisme urbain et au Shebab dans la moindre mesure de ce qui se passe
Mais apparemment, il y a une différence nette.
En Somalie, il y a une différence nette.
Les phénomènes aujourd'hui, à l'ouest, et c'est là où j'allais parler de l'effet contagion, est-ce qu'on peut dire que le fait que ça soit une culture à l'est aujourd'hui, et les dernières informations font état des affrontements entre ces groupes armés, entre Congolais qui s'entretuent, mais aujourd'hui, c'est ailleurs, on a l'impression que c'est une guerre asymétrique. Ce sont des affrontements, c'est les mêmes. On ne peut pas parler d'affrontements. C'est une guerre asymétrique.
Oui. Je vais y arriver. Mm-hmm. Je vais arriver. Et vous verrez que, à part le Katanga, dans le Katanga, vous trouverez que la plupart des cas, ces groupes armés sont longés depuis le Tanganyika jusque vers Rwenzori, en allant jusqu'à Nituri. Ça, c'est une culture parce que vous vous rendrez compte que l'Ouganda n'a pas connu moins de 8 guerres. Avec les différentes successions, Idi Amin, Obote, Milton Obote, et consorts. Donc, la culture ougandaise, au fait, part d'une culture de guerre. L'Ouganda n'a pas connu moins de 8 guerres au cours de son histoire. Et effectivement, les Ougandais aussi étaient obligés, à chaque moment, d'essayer de fuir du côté du Congo, ex-Zaïre. Et on passe par le Rwanda. Le Rwanda aussi, depuis 1959, vous vous souviendrez, le Rwanda a traversé des moments de turbulence et de guerre inimaginables. Avant qu'on atteigne le génocide en 1994. Et effectivement, tout le monde encore ne fait que traverser vers le
Congo. Se déplacer notre pour le Congo.
Et je vais aller au Burundi. Au Burundi, vous saurez que c'est depuis 1972, que le Burundi a connu la guerre la plus atroce. Et les Hutus, par rapport, parce que c'est Mutumbero à l'époque qui était au pouvoir, on amenait les Hutus comme à l'abattoir. Une centaine, même 200 personnes, on pouvait les amener, on creuse de fosses communes. Trois Tutsis ou cinq Tutsis pouvaient enterrer plus de 800 Hutus dans une fosse commune, comme des abattoirs, sans aucune résistance. Et aussi, pour fouiller, ils devaient également se déverser du côté de notre pays. Et donc, vous voyez, donc, quand je parle de l'Ouganda, il faut voir l'Ituri. Quand je parle du Rwanda, il faut voir le Nord Kivu. Quand je parle du Burundi, il faut voir le Sud Kivu. Et dans toute la sous-région, vous vous imaginez, il n'y a que la Tanzanie, qui est un pays pacifique. Il n'y a que la Zambie, qui est aussi un pays assez pacifique. Et d'ailleurs, appelons-le un peu émergent par rapport à nous. Donc, c'est toute une culture. Parce que dites-moi qui vous hantez, je vous dirai qui vous êtes. Et cette prolifération des groupes armés, ça se contamine un groupe après un autre. Et c'est une certaine catégorie sociale. Pour la plupart des cas, vous trouverez, et allez vérifier, il n'y a pas un universitaire qui aurait terminé l'université comme tel, de manière normale, capable de se débrouiller d'une manière ou d'une autre, qui fait partie de ces groupes armés. Pour la plupart, vous trouvez que ce sont des gens, soit ayant terminé l'école primaire, peut-être 2 ans post-primaire, qui effectivement, face à l'instinct de survie, ils se rendent compte que moi je ne saurais pas comment m'en sortir. Il y a moyen de me réfugier.
Mais c'est pourquoi un auditeur a proposé, ce soir-là, donc dans le cadre de la résolution des conflits, il faut commencer par délocaliser ces militaires étrangers ou encore des milices qui, au fait, sont actifs dans notre pays et qui sont venus soit du Rwanda, soit de l'Ouganda. Bon, aujourd'hui, c'est de moins en moins par rapport au Burundi.
Et moi, je vous dis donc, pour ceux qui ne le savent pas, que... Il y a un proverbe chez moi qui dit que tu ne peux pas te mettre à manger avec quelqu'un et tu lui interdis d'avaler. Donc au fur et à mesure, effectivement, que les gens intériorisent qu'au lieu de mourir comme de vaches ou de chèvres qu'on amène à l'abattoir, il y a l'instinct de défense qui surgit. Il y a l'instinct de défense. Et ces instincts de défense, c'est humain sur le plan psychologique. Donc, quand les Burundais, effectivement, se massacrent du côté du Burundais, qu'une partie fuit du côté de la RDC, certains groupes viennent se constituer également pour aller faire une autre résistance de l'autre côté. Il en est de même du côté du Rwanda, qu'il y en a effectivement des Rwandais qui fuient leur pays pour venir se reconstituer.
Les FDLR
ont plusieurs tendances. Ils ont plusieurs tendances, ils ne sont pas homogènes, ils sont hétérogènes. Et à un moment, vous trouvez que l'FDLR du Sud Kivu, leur mode de combat est différent du FDLR du Nord Kivu, ainsi de suite. Et certains même s'intègrent, se marient.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est l'échec du brassage s'il y a prolifération? C'est
l'échec du brassage. La responsabilité partagée. La responsabilité partagée. La responsabilité partagée. Entre, effectivement.
La récompense, comme l'a évoqué Adrien.
La récompense,
et puis après, il y a des frustrations. Est-ce que tout ça, on peut mettre en compte?
La responsabilité est partagée. Quand on parle de la récompense, vous savez, je suis sûr que certains chefs de guerre ou de groupes armés, ils me suivent.
Oui, qui nous suivent en ce moment, parce qu'ils sont nombreux.
J'essayais de pénétrer, il y a plusieurs années, pour essayer de voir exactement quelles sont les causes de ces groupes armés. Pour la plupart des cas, et j'en ai déjà fait sortir de la bourse, certains. Et je continue d'ailleurs. Pour la plupart des cas, ils vous disent ce qui s'appelle le Maïmaï. Parce que le Maïmaï de l'époque, en fait, c'était les défenseurs de la République. Je dis bien les défenseurs.
L'autodéfense,
les défenseurs de la République, peut-être main nue, mais au fil de l'appétit vient en mangeant. plus ils se retrouvent menacés à l'extermination, ils se défendent.
Est-ce que ce n'est pas tout est parti de ces mécanismes-là qui a été mal géré et qui aujourd'hui...
Bon... C'est pas question de mécanismes. Mm-hmm. Alors, un moment, on s'est engagé dans certaines négociations. Partons d'abord de Sand City en Afrique du Sud. Que effectivement, l'aspect groupes armés locaux n'a pas été intériorisé comme tel. Il y a un groupe de politiciens, peut-être parti de Kinshasa, qui sont allés prendre part au dialogue intercongolais, sans avoir aucune maîtrise sur les différents groupes qui prolifèrent.
Du Congo profond.
Du Congo profond. Mm-hmm. Et ils les ont représentés dans le gouvernement de 1+4, sans pour autant avoir une certaine ascendance sur ces groupes-là. Donc on n'a pas résolu le problème. Je ne dis pas que c'est tous, parce qu'il y en a quand même qui sont sortis des groupes armés, mais il y en
et
a
c'est
pas.
C'est curieux, les Maïmaï qu'on a connus à l'Est, et à un certain moment-là même parlait des Maïmaï de Mbandaka, les Maïmaï du Kassai, c'était pratiquement du bluff, c'est des arnaques
de, pas seulement du
politique.
Bluff, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'intelligence et malignité. Mm-hmm. Quand on résolut un problème par l'intelligence...
Parce qu'il y a des gens qui ont été élus sur la liste des Maïmaï de Mbandaka. Oui. Nous en connaissons, nous avons les noms.
Disons que c'était des membres de partis, oui. Partis politiques. Oui. Je dis que quand on résout un problème par intelligence, on aboutit à trouver une solution. Mais si on le résout par malignité, en tout cas, le problème reste intact. Pourquoi j'ai insisté que la responsabilité est partagée? La responsabilité est partagée, que quand vous discutez avec les différents groupes armés, ils vous disent ceci. Si nous, nous ne quittons pas la brousse, parce que nous sommes rendus compte que depuis Sand City, en passant par Gaborone, je ne sais pas, Botswana et consorts, on a récompensé ceux qui s'attaquaient à la République. Et on a oublié ceux qui défendaient la République. Ça, c'est une version. Et la version peut être objective. Mais j'insiste sur le partage de la responsabilité. Mais il y en a aussi dans ces groupes armés que quand on arrive maintenant à l'intégration ou à occuper certains postes de responsabilité, dès qu'on arrive à cette étape-là, lui-même sait que sur le plan intellectuel, il n'a pas à produire.
Il va perdre beaucoup d'avantages, de privilèges, parce que c'est tout lié.
Il vaut mieux dire...
Rester dans la brousse, exploiter les mines.
J'irai où pour aller faire quoi? Ma place est plutôt ici. Et aussi donc, ceux qui effectivement ont pu accéder à des responsabilités, soit au compte de ces différents groupes armés, ils n'ont pas pu jouer les rôles qui devraient être les leurs, mm-hmm. pour essayer de
d'interface,
voir...
Ou encore de point focal.
Par rapport aux autres. Et vous savez, à part on avait commencé par les CONADER.
Mm-hmm. CONADER, et puis on est passé par...
Tarek, Amani 1, Amani 2, après c'était les opérations militaires, Kimia 1, Kimia 2, l'ICOFI... ainsi de suite. Donc voilà un peu du côté de l'Est que c'est une question d'écriture. Et nous devons tout faire. Nous devons tout faire.
Il faut d'abord résoudre ces problèmes de déplacés.
Pour montrer aux Congolais.
Il faut résoudre ces problèmes de déplacés.
On va y arriver. Il faut d'abord dire aux Congolais qu'ils feront de ce pays ce qu'ils voudront. S'ils veulent brûler ce pays, le pays dit, moi je ne sens rien. Vous pouvez me brûler. Mais cependant, on doit savoir qu'à côté de nous, il y a d'autres pays qui sont passés par la guerre. Et la guerre,
et après,
la guerre les a bénéficiés. C'est devenu une puissance.
Alors, monsieur le ministre, on va repasser de l'autre côté du standard avec Jean-Claude qui est à Likasi, ingénieur Valérie à Kinshasa, maître Sonville à Lubumbashi. Jean-Claude, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour monsieur, je salue le ministre avec qui vous êtes
au studio. Oui, merci beaucoup.
Je lui pose une question, monsieur le ministre. Il y a donc quelqu'un qui a porté serment pour défendre l'intégrité, l'intégralité du territoire national. Il a prêté serment devant tous les Congolais et devant la Cour constitutionnelle. Je crois qu'à mon niveau, ce n'est pas vous. Je ne sais pas si vous pouvez me dire qui c'est lui qui a prêté serment pour cela. Ça, c'est la première question. La deuxième question est la suivante. Ces groupes armés situés à l'Est, que revendiquent-ils? Ont-ils raison selon vous ou ils n'ont pas raison? S'ils n'ont pas raison, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que vous essayez de négocier, n'est-ce pas, vous, chez vous, en tant que gouvernement, qu'est-ce qui fait qu'en tant que, tout le temps que vous négociez avec eux, vous les incorporez soit dans l'armée, soit dans la police, soit vous leur confiez certains ministères au niveau national? Et l'autre préoccupation, nous avons au nord qui vous, un gouverneur qui a déjà fait plus de 10 ans. Ne pensez-vous pas que le fait de se retrouver à la tête d'une province sans alternance, ayant déjà consommé le 10 ans ou le 5 ans de mandat, ne constitue il pas aussi un motif, n'est-ce pas, pour les groupes armés de les vendre. Parce qu'ils se disent que dans ces pays, il n'y a que les seules personnes, les mêmes personnes, qui mangent pendant 10 ans, 5 ans, et qui ne respectent pas, n'est-ce pas, les règles de la Constitution.
Mmh. Alors, voilà oui, alors, Jean-Claude, si on va quand même lire un peu le contexte dans lequel le gouvernement congolais ou l'État congolais avait initié notamment le programme Starec en 2009, il est clairement dit que les plans d'urgence développés s'étaient développés d'abord pour une durée de 6 mois, soit de juin à décembre 2009, et que il était construit à partir de la cartographie des initiatives et interventions déjà en cours, notamment comme vient de le dire notre invité, le programme Amani, le cadre du plan de stabilisation initié par la MONUC à l'époque, et également les initiatives similaires de sensibilisation et pacification appuyées par les partenaires et développement, entre autres l'Allemagne, le DFID, le PNUD et tant d'autres. Mais tout cela reposait sur 3 piliers, notamment l'aspect sécuritaire, humanitaire et social et relance économique. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été menés sur le plan réforme sécuritaire, mais sur le plan économique, tel qu'évoqué par Maître Gervais, aujourd'hui, les jeunes se sentant abandonnés, ils n'ont pas d'emploi, et c'est quand même une proie facile pour rejoindre les groupes armés. Donc l'aspect économique n'a pas suivi comme il fallait.
Oui, en fait, vous allez comprendre que la cause principale de tout cela, quand vous parlez de 2009 tout ça, c'est parce qu'on avait un régime qui était encore légitime, qui avait le mandat du peuple. Et actuellement, nous avons un régime qui est au-delà, n'est-ce pas, de ce mandat, et que par conséquent, la solution, la grande solution et la solution la plus efficace à tout ce que vous essayez de spéculer, tout ce que le ministre est en train de parler, c'est vous. La solution, c'est lorsqu'on aura un nouveau régime, n'est-ce pas, issu des urnes. En ce moment-là, vous allez comprendre, vous allez vous-même voir que les choses vont se stabiliser de soi-même sans aucun effort. Et lorsqu'on continuera, voilà, n'est-ce pas, à défendre comme le font les ministres et autres pour nos intérêts égoïstes, c'est un phénomène
nous respectons vos propos. Voilà. C'est votre merci beaucoup.
Vous verrez que tout ce voilà.
Alors, vous voulez JR, laissez-moi un peu réagir.
Oui, rapidement, parce que c'est une préoccupation quand même directe.
Professeur de Jean-Claude, ici, ce n'est pas une question de passion et ce n'est pas une question de sentiment. Il ne faut pas déplacer les problèmes. Comme l'auditeur ici est en train de déplacer les problèmes.
Oui, c'est pourquoi nous vous avons invité, parce que vous avez touché, vous avez palpé du doigt cette réalité.
Nous parlons d'un aspect sécuritaire. Il ne faut pas qu'ils me disent que dès qu'il y a élection, finalement, c'est la pacification totale et magique.
C'est son choix, il trouve que c'est une panacée.
Effectivement, c'est ça les Congolais. Ce qu'il a dit il y a 10 ans, il va le dire il y a 20 ans, il y a 30 ans. Alors que le contexte dans lequel nous sommes, ce n'est pas une question de contexte électoral ici. C'est une question de contexte sécuritaire. Et nous tentons d'une manière ou d'une autre d'expliquer effectivement l'origine, la culture, le voisinage de ces réalités en face de nous.
Mais le fait que ce soit un problème culturel, vous ne pensez pas que c'est un substrat difficile à extraire?
Vous savez, effectivement, les gens voient le mal, ils voient le mal dans des individus. Donc pour lui, tout ce qui nous arrive comme malheur ici, c'est le président de la République qui s'appelle Kabila.
Joseph Kabila.
Dès que c'est Jeanville qui arrive comme président de la République, c'est fini. Par baguette magique, il n'y aura plus de problèmes dans ce pays. Non! Ça c'est la passion et ça c'est le sentiment. Et il faut qu'on arrête quand il s'agit des questions essentielles pour la survie de toute une nation. Les sentiments, on met de côté. Et on prend la raison pour voir voilà la
réalité. Ingénieur Valérie, est-ce qu'il partage cet avis? Ingénieur Valérie, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour JR, bonjour au ministre et à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Bonjour monsieur. À ce niveau du débat, quelle est votre contribution? Entre temps, nous profitons d'ailleurs pour dire merci à tous les internautes et surtout pour vos commentaires. Vous avez déposé, vous êtes plus de 4000 à interagir en ce moment sur notre page Facebook et autres réseaux sociaux de l'émission. Merci de l'intérêt que vous accordez à ces débats. Ingénieur Valérie.
Oui, merci JR pour la parole. Je dois reconnaître que les conflits armés sont antérieurs même à l'avènement d'Israël. Là, je vois tout simplement ceci. Il y a à l'origine une mauvaise gestion de nos propres problèmes à l'interne une mauvaise gestion aussi des problèmes des étrangers à l'externe, plus les convoitises de nos richesses. C'est ce qui est à la base de tout cela. Qu'est-ce que j'entends par mauvaise gestion de nos problèmes? Il vous souviendra qu'en 1914, il y a eu le génocide au Rwanda, je crois au mois d'avril. Le président maréchal Mobutu, avec son MPR, parti État, ils avaient voulu capitaliser un conflit d'autrui, donner aux Hutus rwandais un camp militaire, un camp de réfugiés, s'il vous plaît, tout près du Rwanda, commencer à les aider à s'entraîner pour qu'ils aillent attaquer le Rwanda. Il est de bonne loi que les Tutsis, à leur tour, devraient nous attaquer. Donc, l'attaque de 1996, c'était notre propre erreur, c'était notre propre provocation, notre responsabilité. C'est nous qui avons poussé le Rwanda à nous attaquer en Mantis. Maintenant, depuis que les FDLR là, sont arrivés ici, aujourd'hui, nous avons des FDLR qui ne sont même pas les premiers rwandais, non plus, mais plutôt leurs enfants. Donc, ce sont les héritiers d'un processus, les héritiers de toute une branche. À partir de là, le Rwanda en a aussi profité pour commencer à piller nos ressources. Chez eux, les Tutsis et les Hutus ne s'entendent pas, mais quand ils viennent ici, les Hutus et les Tutsis s'entendent, du moins pour ce qui est richesse de la République démocratique du Congo. L'Ouganda, comme l'a si bien dit le ministre, et le Burundi, avec leurs expériences de guerre, ils nous ont aussi transposé leurs conflits. Là, je suis d'accord avec le ministre. Maintenant que le conflit, alors que le conflit a déjà vu le jour, nous avons encore mal géré comment, en échouant la réinsertion. Parce qu'il fallait que ceux qui quittaient l'armée, ceux qui quittaient les groupes armés, pardon, qu'ils convoient une différence en eux par rapport à ceux qui sont restés, c'est ce qui allait motiver les autres à venir.
Tout à fait. Le mécanisme de réinsertion, les kits de réinsertion, et puis bon, les conditions d'alité, nous avons vu ce qui était à l'Équateur, avant même ces phénomènes de Niélé, et voilà, ils se sont sentis abandonnés, parce que les kits de réinsertion étaient insuffisants pour eux. C'était déficitaire.
Tout à fait, JL. Vous savez, ça se fait comment? Il faut voir même les âges de recrutement. Pourquoi on recrute les adolescents? Ils sont intelligents, ceux qui recrutent les adolescents. Ils connaissent la psychologie. C'est parce qu'on sait qu'à cet âge-là, la personne qui n'a pas bénéficié de l'affection se replie sur elle-même. Et il suffit qu'on lui apporte une solution, qu'on lui montre que tel ne vous aime pas, voilà, avec nous, vous pouvez faire ceci. Il adhère sous forme d'un dogme, sous forme d'une drogue, et pour les faire partir de là, ce n'est pas une mince. Voilà, c'est de cette manière qu'on recrute ces gens-là. Mais je me pose toujours une question. Comment voulez-vous que nous qui avons une grande armée, armée que craignaient les étrangers, aujourd'hui, c'est cette armée-là qui est devenue aussi incapable de mettre fin à des milices qui sont pour...
Oui, mais Valérie, d'une part, il faut...
N'est-ce pas aussi une faiblesse à notre disons, actif en termes d'organisation au niveau de l'appareil sécuritaire?
Oui, mais alors, ingénieur Valérie, il faudrait quand même les reconnaître qu'on est en plein processus de réforme de services de sécurité, notamment la police et l'armée. Vous êtes sans ignorer que depuis 98, il y a cet effort qui est mené par les autorités locales pour qu'on arrive vraiment à avoir une armée républicaine et aussi une police républicaine. Mais aujourd'hui, il y a également un problème au sein, parce que Alain Bonodjo l'a dit, c'est un problème mercantiliste. Et sur place, il y a l'absence un déficit de l'effectif de la police dans les zones minières, par exemple, ce qui fait qu'il y a une opportunité qui se crée par rapport à ces vides.
Oui, mais papa, cette réforme prendra combien de temps? Jusqu'à l'éternité. Donc, même jusqu'au retour de Jésus, la RDC sera toujours en train de parler d'une réforme interminable.
Merci, non. Merci beaucoup. Alors, parce que nous avons un membre du gouvernement...
S'il vous plaît, je voudrais poser quelques questions au ministre.
Oui, rapidement, oui. Voilà, rapidement, parce que vous n'avez que 30 secondes.
Puisqu'il connaît pertinemment bien les problèmes en tant que politique et originaire du site que vous, comment le ministre entend persuader ses pairs dans le gouvernement pour qu'on trouve des solutions? Deuxièmement, pourquoi chaque fois que nous marquons un succès, c'est juste après le succès qu'il y a des firmes de l'autre côté de ces groupes armés? Je dis et je vous remercie.
Merci beaucoup, ingénieur Valérie, parce qu'il s'agit des questions directes, monsieur le ministre.
Oui, je salue d'abord ingénieur Valérie dans sa façon de voir les choses, et je crois qu'il est plus il est plus plongé aussi dans la raison, comme je l'ai dit, que dans le sentiment. Sincèrement, je le salue et le remercie pour son analyse. Je dois d'abord lui dire que quand il dit que Mobutu avait accordé des espaces d'entraînement à l'armée des fêtes du Rwanda, d'Abiarimana, au fait, avant le départ de Mobutu, la RDC était comparable à un lit. Un lit déjà rongé jusqu'à la fin. Et vous, vous pensez que votre lit est le même que quand vous l'avez acheté. Dès que vous vous mettez sur le lit s'écroule. C'est à ce stade que Mobutu avait laissé le pays. Et comme il a joué un rôle important pendant la période de la guerre, froide, il avait l'appui de tout l'Occident, il avait l'appui des Américains et autres. Il se croyait le même. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, vous savez que la dépouille d'Abiarimana est venue jusqu'à Guadeloupe. Et Mobutu même a épousé la femme du feu Abiarimana. Parce qu'ils avaient des relations assez séculaires. Donc, c'était cette période-là, et que nous étions dans une grande période de fragilité. Fragilité économique, fragilité politique, fragilité militaire, fragilité dans tous les sens, qu'on peut dire les choses. Donc, les Zaïres n'existaient plus que des noms. N'existaient plus que des noms. Un proverbe dit chez moi que quand vous ne visitez pas votre natte, vous ne savez pas quand est-ce que les fourmis l'ont rongé. Quand est-ce que les fourmis l'ont rongé? Et l'armée. Et Mobutu lui-même. Il n'existait plus que des noms. Le pays n'était même plus ni dirigé, ni administré.
Mais le processus de réforme de l'armée aujourd'hui...
Je vais y aller et je vais l'apaiser.
Finalement, c'est pour l'éternité.
Je suis tout à fait d'accord avec lui qu'effectivement, l'insécurité à l'est du pays part avant l'arrivée de...
C'est antérieur, comme il a dit.
Oui, je l'informe.
On partage ça.
Moi, je l'informe. Que moi, je suis né dans la guerre. Depuis 1900... Je suis né en 60. J'ai connu les bivouacs. Les bivouacs, c'était des camps de concentration où on amenait tous les paysans. J'ai connu les bivouacs à l'âge de 6 ans. Et je me rappelle que ma mère m'attachait une corde à la main et aux pieds pour traverser une petite rivière. Parce que j'ai traversé cette rivière en somnolant. Donc à l'âge de 6 ans, j'ai vécu cette insécurité. Et j'ai grandi en pleine guerre. J'ai perdu mon père en 67. J'avais 7 ans. Égorgé vif.
Aujourd'hui, vous avez été un médiateur, vous avez pris quelques groupes armés que vous avez travaillé, sensibilisé pour que le rejoignent l'armée régulière. Bon, c'est là. Quelle est l'approche que vous avez utilisée?
L'approche que j'ai dit est que, effectivement, nous vivons l'insécurité même avant l'arrivée de la FNL. Parce que depuis les années 64,
oui.
Une guerre qui est partie d'ici à Bandundu. Elle est terminée.
Avec les Moulélé.
Elle est terminée sur toute l'étendue de la République, mais elle est allée s'incrustrer à Fizi, à Uvira et ailleurs. Pourtant, ici d'où est partie cette guerre, elle est terminée depuis très longtemps. Donc, cet espace-là, c'est un espace fertile dans les conflits. C'est pourquoi je dis toujours que ça fait partie d'une culture. Et c'est vrai. D'abord, il faut le reconnaître qu'il y a des Hutus. Et il y a des Tutsis congolais, communément appelés les Banyamulenge, dans le Sud Kivu, les Bahutu, dans le Nord Kivu, qui sont plus dans le Rutshuru, dans le Masisi. Mais effectivement, monsieur...
Non, mais par rapport aux années passées, c'est le plus de conflits ethniques. Ce n'est plus de conflits ethniques, comme par le passé.
Non, ce n'est pas comme par le passé. Monsieur Valéry dit que, autour de nos richesses, ces gens s'entendent. Même s'ils se battent chez eux, entre eux, mais quand ils arrivent chez nous, ils s'entendent. Au profit de nos richesses. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand vous avez un riche bête comme voisin, vous faites quoi et vous êtes pauvre? Vous bénéficiez de sa faiblesse pour devenir le riche et que lui devienne pauvre. Et nous risquons de l'être. Savez-vous, le chef de l'État a mis une commission sur pied sur certaines mesures stratégiques. Savez-vous que les Congolais, je prends le cas de Bukavu, que tous nos opérateurs économiques importent leurs marchandises au Rwanda, ils n'importent pas aux Congolais. Et dès qu'ils ont payé toute la douane du Rwanda, et quand ils arrivent au Rwanda,
ils mettent leurs marchandises, ils vont décharger par vélo et commencer à entrer soit la nuit avec un vélo qu'on appelle vélo cargo. Ça, c'est pas la même chose. Avec la Zambie, la Kasumbalesa, ça c'est pas la même chose ici à Moanda, avec l'Angola. Donc, quand un riche est bête,
oui,
et il a un voisin intelligent,
c'est le débat, il faut que nos frontières sont poreuses.
Je ne dis pas que nous sommes bêtes.
Si vous le permettez, hein, monsieur le ministre, on va prendre cette
décision. Pourquoi on recrute les adolescents?
Oui,
vraiment, il faut que j'y aille.
Si vous le permettez, je crois qu'on va, le problème de recrutement, il viendra à la fin. Le temps, peut-être, il nous reste 10 minutes. On prend la dernière série des auditeurs. Maître Sonville est à Lumbashi. Bonjour, Maître Sonville.
Bonjour Monsieur JR, bonjour à Monsieur le Ministre, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi.
Bonjour
Sonville. Dans la thématique, Monsieur JR, je dirais ceci. Il faut d'abord regarder les rétroviseurs, d'où nous venons, où nous sommes, et regarder maintenant devant la parabrise. Où est-ce que nous allons? Moi je dis que ce n'est pas un problème culturel. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes en train même de vivre des guerres internes. Jadis, on n'entendait pas parler des toits, des pygmées qui sont en train de semer la terreur. Qui arme ces toits? Vous comprenez un peu? Moi, j'estime que le rôle dévolu à l'armée de sécuriser l'intégrité.
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Maître Sonville. On va poursuivre avec Maître Gaston qui est à Kinshasa. Bonjour Maître Gaston.
Merci. Je vous salue aussi avec l'invité.
Oui, quelle est votre contribution à ce niveau?
Bon, j'allais dire que actuellement l'armée, les forces armées à l'Est ont vraiment un objectif que tout le monde est censé connaître, c'est de fragiliser les soi-disant démocraties que nous avions entamées de l'autre côté. Parce que vous n'ignorez pas que depuis que l'avènement de la démocratie existe, depuis l'arrivée de Kabila au pouvoir, ces forces armées-là existent.
Oui, Maître Gaston. Vous avez suivi tout à l'heure Général Valéry qui a parlé de l'antériorité de ces phénomènes. C'est même bien avant l'AFDEL et bien avant la déclaration de la démocratisation de notre pays.
Oui, là c'était vraiment
par rapport
pas,
à l'histoire.
Ça nous concernait vraiment pas. C'était bien qu'il y avait aussi les problèmes qui devraient naître dans notre pays, mais ça concernait plus les régimes rwandais. Et quand ils sont venus de l'autre côté, nous avions senti que ceux qui sont venus pour chasser aussi notre président, c'était les gens qui étaient accompagnés par des Rwandais. Et depuis lors, nous sentons que non, ces gens-là, lorsqu'ils ont fait les replis, ils étaient à l'Est, et ils ont combattu Kabila, Kabila est décédé, et ils sont montés au gouvernement, ils sont actuellement au gouvernement, et nous constatons que cette armée existe, non pas pour vocation de chasser les régimes, mais ils sont là pour... Donc la démocratie n'existe pas. Parce que nous parlons des élections et ils sont toujours là. On se demande qu'est-ce qu'ils cherchent en soi. Moi, je pense que, ceci. La guerre en RDC, ça a existé partout. Depuis les années, on a vu à l'Est, on a vu à l'Ouest, dans les bandes, dans les Kassas, il y a eu la guerre, mais ça a pris fin. Et à l'Est aussi, ça doit normalement prendre fin. Et
je me pose
la
question.
L'ONU, la mission des Nations Unies est là pour mettre fin à si c'est vraiment un conflit international. La mission des Nations Unies est là. Et il devrait maintenant manifester aussi, à mon avis, la force de l'ONU, la force d'effet de l'ONU pour remettre en cause ces forces-là négatives. Hein, mais jusque-là, vous nous posez la question devant la faiblesse des forces armées congolaises. L'ONU, la même chose, on se pose la question, quel est l'objectif de ces groupes armés? Est-ce que c'est pas en complicité avec toute la communauté internationale juste pour, en quelque sorte, nous dire que démocratie n'a pas sa raison
d'être? Voilà, on verra cet aspect des choses d'ailleurs en conclusion. Alain Bolodjo, vous avez droit à une minute et demie également. Alain Bolodjo, bonjour et bienvenue.
Bonjour Radio Capi, bonjour à votre invité, bonjour à tout le monde.
Quelle est votre contribution?
Bon, moi j'estime que nous sommes mal partis par le simple fait que la question est transversale, comme je l'ai dit. Ça demande à ce qu'il y ait l'implication de tout le monde. Mais en ce qui concerne l'armée, il y a un problème en termes de vision et en termes d'objectifs. L'armée est créée pour préserver la souveraineté. L'armée est créée pour contribuer dans l'essor même économique. Pourquoi faisons en garantissant la sécurité? Mais malheureusement, l'armée est régie aujourd'hui par des humeurs des gens. Parce qu'en principe, dans l'armée, on doit voir la discipline, on doit voir la cohérence, on doit voir la synergie dans le fonctionnement. Mais malheureusement, on sent que notre armée est divisée et notre armée est gérée aujourd'hui par le tribalisme, le népotisme, c'est plus des politiciens, des commerçants. Comment voulez-vous que des gens qui sont appelés à gouverner les services de sécurité sont plus dans le commerce. Les généraux aujourd'hui ne font que le commerce. Et les petits soldats, les soldats des rangs, ne sont pas suffisamment motivés. Nous prenons le cas de notre frère Mamadou Ndala, un homme qui s'est battu pour la République. Il a été assassiné par ses propres concitoyens. Donc, quelque part, il y a un problème en termes d'organisation.
Non, merci beaucoup. Alain, merci beaucoup, parce qu'on a pris assez de temps, on va conclure.
Le gouvernement n'arrive pas.
Vous avez dit qu'il y a un problème. Il y a un problème d'organisation. On va conclure avec vous, monsieur le ministre. Question transversale, il faut l'implication de tout le monde parce qu'il faut maintenant apporter des solutions rapidement à ces problèmes. Est-ce que à court, à moyen et à long terme, on peut trouver des solutions? Lesquelles?
Oui, je dois d'abord dire à monsieur Gaston que l'armée de la République démocratique du Congo de 2000 n'est pas l'armée de 2017. Notre armée subit beaucoup de sacrifices pour défendre la République. Et nous en connaissons les cas. Et elle n'est pas à mépriser que les étrangers nous craignaient qu'on sorte. L'armée est en train de se reconstituer. Je ne suis pas ministre de la Défense. Je ne suis pas dans les services de sécurité. Je suis ministre de la Défense. Mais je suis opérateur politique. Je lui dis que notre armée, dans peu de temps, deviendra l'une des armées les plus fortes de la sous-région.
Avec un signal fort déjà de recrutement. On a quitté le recrutement des stades, maintenant c'est...
Il n'y a plus le recrutement des stades. Mm-hmm. C'est maintenant l'armée de l'élite. Vous n'avez pas un certain niveau d'instruction. Vous n'accédez à aucun grade. Et moi je l'ai toujours dit que normalement notre pays, qui est menacé d'ailleurs par des petits voisins en principe, nous avons plus de 80 à 120 millions d'habitants. Non seulement nous pouvions avoir une armée de 500 000 hommes, mais surtout, nous devons savoir que nous devons résister, nous devons avoir l'instinct de défense et de résistance que normalement, les élèves qui terminent leurs humanités, au lieu seulement de se mettre avec de la poudre en train de circuler dans la ville, ils devaient passer 2 ans d'entraînement avant d'aller à l'université.
Pour acquérir une discipline militaire.
Une discipline militaire, parce qu'il n'y a pas meilleur, il n'y a pas meilleure profession. Comme l'armée. Il n'y en a pas. Et je garantis à ceux qui minimisent la force de frappe de l'enfant blessé, qui endure beaucoup de sacrifices, je sais, je le suis de très près. Il y a des attaques qui se sont commises hier vers le fils et à Sébélé.
Alors, rapidement, il y a des blessés,
mais ils veulent mettre hors d'état de nuit.
Monsieur le ministre, vous avez une minute pour conclure.
Oui, je vais conclure.
À court, à moyen, à long terme, qu'est-ce qu'on va faire?
À court, à moyen, à long terme. Moi, je pense qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Le gouvernement a un prix à payer pour pacifier la République. Ça a été le cas pour Gédéon Kyung. Beaucoup de gens ont critiqué, mais on ne parle plus de Katakatanga. Et nous sommes en train d'inviter, que ce soit les Yakutumba, que ce soit les Nyerere, que ce soit Consort, que la période de se développer, elle est arrivée et que les uns et les autres ne vont rien gagner dans la bourse. Ils vont plus gagner en contribuant à la sécurisation de leur propre pays.
Justin Bitakwira, ministre du développement rural et opérateur politique, merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de ce programme. On se retrouve demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. Mais les débats continuent sur notre page Facebook et nos différents réseaux sociaux. À très bientôt, comme je l'ai dit, et pensez aussi à nous proposer des sujets.